Bonjour à tous, nous sommes des élèves de première du lycée Pyrène à Pamiers et nous faisons partie de l'option sciences politiques. Dans le cadre d'un projet mené par celle-ci, un partenariat avec Oxygène FM a été réalisé. Celui-ci vise à l'enregistrement d'une émission radio sur le thème des Jeux Olympiques et du sport, et cela entièrement réalisé par nos soins. Depuis le mois de février, nous avons œuvré lors de séances avec nos professeurs pour apprendre le fonctionnement d'une émission radio. Nous avons par exemple découvert les différents formats radiophoniques qui existent, ou encore nous avons pu nous rendre à plusieurs reprises dans les locaux d'Oxygène FM en compagnie de Suzanne pour nous familiariser avec le matériel radio.
Comme on l'a dit, cette émission est centrée sur les Jeux Olympiques. Mais alors qu'est-ce que c'est ? Les Jeux Olympiques sont un événement sportif mondial et ayant lieu tous les 4 ans. Il y a d'abord les Jeux Olympiques d'été, puis suivis de ceux d'hiver. Les athlètes de différentes nations se réunissent pour concourir dans plusieurs disciplines sportives, mettant en valeur l'excellence athlétique, l'esprit sportif ainsi que la camaraderie internationale. Les Jeux Olympiques visent à promouvoir la compréhension, l'amitié ainsi que la solidarité entre les peuples. Cette année, la France a la chance d'accueillir les Jeux Olympiques d'été qui auront lieu plus précisément à Paris du 26 juillet au 11 août, puis ceux paralympiques du 28 août au 8 septembre. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Kamel Chibli, vice-président au sein du Conseil régional. Passionné par le foot en salle le dimanche soir avec ses amis, il est en charge des sports en Occitanie et celui-ci a notamment participé à l'organisation des Jeux Olympiques au sein de la région, que la France accueillera en juillet prochain. Bonjour Kamel, je suis Yanis.
Et moi Clément, et nous sommes ravis du temps que vous nous accordez aujourd'hui en répondant à quelques-unes de nos questions quant au sujet de l'Occitanie et de ces Jeux Olympiques.
Bonjour Yanis, bonjour Clément, merci de m'accueillir. C'est ce magnifique lycée de Pyrène.
On le sait, la flamme olympique a fait son entrée sur le sol français le 8 mai dernier à Marseille et elle était en Occitanie du 13 au 19 mai. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le parcours et sur les porteurs qui lui avaient été réservés ?
D'abord, je suis très heureux de vous avoir amené parce qu'il faut quand même le dire, c'était pas prévu, c'était la surprise de vous avoir amené la torche officielle puisque vous êtes le seul lycée en région et les premiers lycéens en région Occitanie qui avaient eu la chance de la toucher, de la voir et de la prendre en photo. Donc je suis très content. Que ça se passe en Ariège, écoutez, la flamme, c'est un moment magique parce que c'est un peu particulier les Jeux Olympiques en France parce que ça se déroule beaucoup à Paris. Et en fait, il y a vraiment ce sujet en disant comment l'ensemble du territoire français peut faire partie de la fête et des Outre-mer, métropolitaine d'Outre-mer. Et donc, du coup, la question liée à la flamme qui tourne dans toute la France et notamment l'Occitanie était une bonne manière de dire, les Jeux Olympiques, c'est aussi, et Paralympiques, c'est aussi en Occitanie et notamment dans les départements qui ont, ça s'est terminé il y a moins de 2 jours dans les Hautes-Pyrénées. Donc voilà, les porteurs, c'est quoi? C'est plusieurs symboliques. Il y a les porteurs qui sont des sportifs, des athlètes de haut niveau. Nous, on a, par exemple, choisi Perrine Lafont, que vous connaissez bien ici, natif de l'Ariège, de la Blanée, qui était championne olympique. Nous avons aussi des bénévoles, des éducateurs, des gens qui ont des parcours assez remarquables. C'est en fait un choix qui est fait par l'organisation de Paris 2024, mais aussi par les collectivités qui mettent un petit peu en avant quelques parcours ou quelques personnalités. Donc voilà, les porteurs de la flamme, c'est ça, c'est quand même 10 000 porteurs à l'échelle de la France. C'est 60 départements traversés, beaucoup, beaucoup de villes, et un périple de, beau périple de, d'une dizaine de jours dans les Outre-mer à partir de cette semaine. Voilà, donc elle reviendra ensuite pour terminer son périple en France et terminer, bien sûr, comme vous savez, à Paris pour le 26 juillet, c'est-à-dire l'allumage officiel de la torche qui va proclamer l'ouverture officielle des Jeux Olympiques.
On l'a dit, la région Occitanie œuvre également à l'organisation des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que celle-ci a fait ou est en train de faire?
On a fait plusieurs choses. D'abord, on n'a pas fait de choses autour de l'événement lui-même, puisqu'on a, comme je dis, on n'a pas de compétition en Occitanie. Par contre, on a des athlètes, et de sacrés athlètes. Et ces athlètes, ils se préparent chez nous. Donc il faut des infrastructures, il faut des terrains, il faut des moyens pour leur club. Bref, il faut un certain nombre de choses. Et donc nous, on a beaucoup œuvré pour investir beaucoup. Je pense à des gymnases, je pense à des murs d'escalade, je pense aussi à des aménagements liés à des piscines où s'entraînent la plupart de nos athlètes. Et donc la région a beaucoup fait là-dessus. Hein. C'est pour vous donner un chiffre, alors c'est assez énorme comme chiffre, mais depuis 2016, la région au global a consacré un peu plus de 100 millions d'euros sur les infrastructures dans l'ensemble du territoire. Et avec des aides aux athlètes, puisqu'on a la chance de pouvoir accompagner les athlètes, on a à peu près 900 athlètes de haut niveau avec des bourses individuelles. Vous donnez quelques noms que tout le monde connaît. Kevin Mayer pour le décathlon à Montpellier. On peut parler des frères Lebrun, tennis de table. On peut parler également de Léo Marchand, au dauphin du Touec, qui est plutôt présenté pour battre tous les records. On a Maxime Vallée qui en para escrime. Sofiane Omiya en boxe, notamment à Toulouse. Je pourrais parler, bien sûr, parce qu'on est interne de rugby, d'Antoine Dupont pour le rugby à 7 et plein d'autres, notamment des jeunes filles. Je pense à Chérine aussi, dans le Gard, qui est judokate et qui est champion d'Europe. Bref, beaucoup d'athlètes. En fait, on est dans une région qui probablement pourrait être la région qui va peut-être rafler, si j'ose dire, le plus de belles médailles, en tout cas je le souhaite, pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc c'est tout ça, c'est l'investissement, c'est les clubs, puisqu'on aide les clubs en direct, et on aide aussi les athlètes, parce que les athlètes, vous savez, c'est pas facile de voyager à travers le monde, ça coûte de l'argent, il faut acheter des billets d'avion, etc. Et là, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir les accompagner tous. Et puis oui, j'ai oublié de terminer, parce que cette question est pertinente, on a acheté aussi un peu plus de 1000 places olympiques et paralympiques, en gros 600 à 700 places des Jeux Olympiques et 400 en paralympiques, pour accompagner et amener un certain nombre de jeunes comme vous, des clubs sportifs, mais aussi des bénévoles méritants, pour les amener vivre une journée à Paris pour vivre les Jeux.
On sait que le département ariégeois peut être plus isolé que d'autres, mais pour ces JO 2024, l'État s'est engagé quant à l'organisation d'animations territoriales. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer quelques-unes ?
Oui, ben les animations territoriales, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a ce que nous on fait région, c'est-à-dire qu'on va faire venir un athlète de haut niveau dans un lycée, on va avec Génération d'ailleurs 2024, avec d'autres partenaires, faire en sorte qu'il y ait un échange entre l'athlète de haut niveau et les jeunes, parce que c'est bien d'expliquer son parcours, pourquoi j'ai choisi telle discipline, comment ça s'est passé, etc., etc. Il y a la dimension de ce que vous faites vous dans l'établissement, hein. Il y a aussi une tournée régionale qu'on organise, qui va faire le tour de toute la France, avec le cross, qu'on appelle l'équivalent du mouvement sportif français ou olympique français à l'échelle régionale pour faire vivre des événements sur chaque territoire. Et on a aussi plein d'événements en région, alors pas forcément en Ariège effectivement, pour faire vivre les Jeux. Donc je sais qu'il y a Foire de Rue prochainement à Foix, auquel il y aura quelques événements autour notamment des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc voilà, c'est créer des moments d'animation sur chaque territoire. Et puis il y a la question de l'héritage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on laisse comme héritage à vous, aussi aux jeunes générations, sur le fait d'avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques, puisque même vous qui êtes plus jeunes que nous, vous n'êtes pas sûr de les revoir un jour à Paris, puisqu'on parle d'il y a 100 ans. Ah, les derniers Jeux Olympiques à Paris, c'était il y a 100 ans. Donc ça fait un siècle. Sauf si, peut-être d'ici là, l'espérance de vie sera très longue et que vous verrez jusqu'à 150 ans, ce que je vous souhaite. Donc voilà, donc c'est un peu tout ça, mais c'est aussi le fait de pointer. Je pense que c'est l'occasion de dire qu'est-ce qui manque dans le sport dans notre région et dans notre Ariège. Qu'est-ce qui manquerait pour que ça soit mieux? Vous avez le dispositif des 30 minutes, bouger 30 minutes par jour pour le sport, pour le physique, pour aussi pour le psychique, pour plein de choses. Donc voilà, c'est tout ça. Voilà. Et c'est un moment de partage, comme ça reste un moment de partage qui est quand même extraordinaire.
Le 22 janvier dernier, le lycée Pirène dans lequel nous étudions a été récompensé par le label Génération 2024 dans le cadre des Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus quant à ce label et sur son importance une fois délivré ?
Alors, le label, il n'est pas donné par la région, mais plus par l'État. Mais c'est un label qui récompense un peu le travail qui est fait dans l'établissement pour faire vivre le sport et cette Génération 2024. Génération 2024, c'est une manière aussi de donner à jeunes générations, ce que je dis parler d'héritage, c'est la manière aussi dont on laisse une trace dans la jeunesse. Puis l'engagement aussi de vous, chacun d'entre vous dans l'établissement, faire vivre le sport, donner aussi de l'appétence à certaines disciplines pour d'autres, pour des jeunes qui ne pratiquent pas de sport, lutter contre aussi cette espèce de repli sur soi, parce que le sport c'est aussi le partage, aussi la manière de rencontrer l'autre. La question de la performance, mais pas que. Il n'y a pas que la compétition dans le sport, il y a aussi la manière dont on exerce, dont on connaît, dont on partage avec des jeunes filles, des jeunes garçons. Donc moi, je félicite parce que tous ceux qui s'engagent dans cette démarche de Génération 2024, au-delà de la dimension Jeux Olympiques et Paralympiques, qui n'est pas une fin en soi. Les Jeux Olympiques, c'est une fois, mais il faudra bien vivre après les Jeux Olympiques. C'est exceptionnel, on vit un moment historique tous. Qu'est-ce qu'on fait derrière ? Donc, Génération 2024, j'espère surtout que ça va continuer le temps, parce que c'est une manière aussi de sensibiliser des jeunes et des moins jeunes. Et là, pour le coup, c'est des jeunes. Sur cette découverte aussi de l'olympisme, de ce que ça veut dire aussi, parce qu'il y a plein de choses à travers les Jeux Olympiques de comprendre. Comprendre plein de trucs. Il y a aussi la question des États, les questions des continents, la question de la dimension géopolitique aussi. Pourquoi il y a des équipes, par exemple, vous avez des athlètes qui sont des athlètes réfugiés qui peuvent jouer aux Jeux Olympiques. Par exemple, c'est quand même important de comprendre aussi pourquoi des hommes et des femmes qui ne sont pas forcément identifiés d'un pays peuvent, malgré étant réfugiés, participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques, par exemple. C'est des exemples que je pourrais vous donner, il y en a d'autres, mais voilà. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est une satisfaction, mais c'est surtout la récompense, surtout votre engagement à vous. Et ça, c'est le plus important.
Et nous clôturons cet entretien, Kamel, en simplement vous demander si vous ferez partie des spectateurs des JO en juillet prochain et si vous attendez certaines disciplines plus impatiemment que d'autres.
A priori, je devrais y participer, mais pas en tant qu'athlète. Ça, vous l'avez compris. Oui, je devrais y participer parce que bon, c'est un honneur. Moi, j'ai la chance moi, de participer. En plus, d'y représenter, je suis membre du conseil d'administration du COJO, ce qu'on appelle communément les organisations des Jeux Olympiques, parce que j'y représente toutes les régions de France métropolitaines d'outre-mer. Donc c'est un peu une spécialité. Et derrière, pour moi, les compétitions que j'attends, c'est celles de nos athlètes, forcément, puisqu'on a à peu près entre 50 et 100 athlètes en région peuvent se qualifier pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc vous imaginez le chiffre. Et récemment, dans la presse qui m'avait questionné, j'avais estimé, vous savez, tout le monde fait des espèces de, j'allais dire, de projection. Moi, j'avais estimé qu'on pouvait avoir entre 10 et 15 médailles qu'en Occitanie, ce qui serait formidable, donc beaucoup, beaucoup en or. si on a ça, on pourrait être très heureux, puisque ça veut dire que les athlètes vont venir aussi vous voir, avoir des échanges. Voilà. Donc effectivement, je vivrai la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, et celle aussi des Jeux Paralympiques, parce que c'est important aussi. On est à un jour près, mais il ne vous a pas échappé qu'on est au J-100 des Jeux Paralympiques. Donc c'était à une journée près, parce que c'était il y a 24 heures. Donc c'est important de vous le dire, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être diffusée, mais c'est important que vous sachiez qu'on accorde autant d'importance aux Jeux Paras qu'aux Jeux Olympiques. La question d'inclusion est essentielle dans ce pays, donc je serai, et les compétitions, tennis de table, athlétisme, judo, rugby à 7 forcément, boxe anglaise forcément, natation, parce qu'on nous annonce un Léo Marchand hallucinant, parce qu'on pense qu'il pourrait faire des records... un peu à l'ancien grand champion américain Phelps. Donc voilà, on attend ça avec impatience. Et puis je vous rappelle qu'il a juste 21 ou 22 ans, il est tout jeune. Voilà.
Merci Kamel, ce fut un plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous. Nous vous remercions encore d'avoir accepté l'invitation ainsi que d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Mais merci à vous deux et merci à l'ensemble des équipes, parce qu'on a aussi une ingénieure son qui est à côté de nous, parce que c'est pas que masculin, hein, c'est féminin aussi. Donc merci de votre accueil et bravo pour cette belle initiative. En tout cas, j'ai pris un vrai plaisir d'être avec vous cet
merci
après-midi.
Beaucoup. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous êtes sur les ondes d'Oxygène FM et maintenant vous allez écouter Mathilda qui va nous faire une brève sur l'épreuve de surf et ses conséquences.
Le site destiné à l'épreuve de surf des Jeux Olympiques 2024 se situe à Teahupo en Polynésie. Le récif corallien a été endommagé à cause de l'infrastructure censée accueillir les juges. Lors du test d'installation, celle-ci s'est échouée sur le corail et l'a abîmée. Les habitants étaient déjà sceptiques par rapport à cette infrastructure avant l'incident, mais le sont encore plus maintenant.
Maintenant, vous allez écouter un nouvel interview effectué dans notre lycée. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Léo Querin, un nom qui résonne dans le monde du handball. Originaire de Quilmes en Argentine, Léo a représenté avec fierté l'équipe nationale argentine de handball masculin. Son parcours inclut des moments forts tels que les Jeux Olympiques de Londres en 2012, de Rio en 2016, ainsi que les championnats du monde. Après ses tirs extérieurs ravageurs comme les qualifient les médias et de nombreuses années de succès en France et en Italie, Léo est aujourd'hui surveillant dans notre lycée. Bonjour Léo, je suis Antoine.
Et moi Alice, et nous sommes ravis du temps que vous nous accordez aujourd'hui en répondant à quelques-unes de nos questions.
Bonjour.
Je m'appelle Ajar et j'aimerais commencer par vous demander quelles ont été vos premières expériences dans le handball et comment vous êtes devenu professionnel dans le milieu.
Bon, alors mes premiers pas comme handballeur, c'était à l'école. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. Après, j'ai été repéré par un entraîneur qui m'a fait la proposition d'aller à jouer dans un club. C'était le club de ma ville, en Quilmes. Je ne connaissais pas à l'époque. Du coup, je me suis présenté avec ma mère, tout petit. J'ai fait mon premier entraînement avec l'équipe de Quilmes. Après ça, bon, en même temps, j'ai joué aussi au foot. Du coup, à un moment donné, il fallait prendre la décision de choisir un sport. J'ai kiffé l'handball. Du coup, j'ai décidé d'arrêter le foot et en prendre cet sport.
On l'a dit, vous avez participé deux fois aux JO, il me semble, auquel l'Argentine a fini 10e lors de vos participations. Comment est-ce que vous les avez vécues, que ce soit en termes de pression, d'entraînement ou autre?
Alors, moi, j'ai disputé pas mal de qualifications avant mon premier JO. Nous, l'année 2007, on a fait qualif à Rio. Et on a perdu la finale. Du coup, on n'a pas pu être présent aux JO de Pékin. Ensuite, en 2011, on a fait 6 ans. On a préparé ces compétitions et finalement, on a eu la chance de gagner au Mexique la finale contre le Brésil et pouvoir disputer les premiers Jeux Olympiques pour l'Argentine. Bon, c'était mon premier Jeux Olympiques aussi, mais c'était aussi le premier Jeux Olympiques pour l'handball argentin. Du coup, c'était une expérience magnifique. On a beaucoup travaillé, beaucoup d'entraînement. Pendant le mois de juin et juillet, on s'est entraîné même 3 fois par jour. C'était une préparation très difficile, très psychologique et mentale, et aussi une magnifique expérience.
Aujourd'hui, en regardant en arrière, quels sont les aspects de votre carrière sportive dont vous êtes le plus fier ?
En fait, c'est ça, la participation aux Jeux Olympiques. Déjà, faire participer à les JO, c'est une chose très difficile. Et moi, j'ai eu la possibilité de le faire 2 fois.
Maintenant, une question qu'on s'est beaucoup posée lors de nos recherches. Comment est-ce que tu es arrivé ici, au Castellà, en tant que surveillant?
C'est un peu particulier parce qu'en fait, j'ai joué à Pau, un copain d'ici, de la région. Du coup, je venais souvent à Pamiers. Un an et demi à peu près, ma femme il avait la proposition de venir ici à travailler. Du coup, je me suis dit pourquoi pas venir à Pamiers, entraîner l'équipe et aussi chercher un travail. C'était la possibilité de travailler ici au lycée, travail qui était compatible avec les entraînements d'Amal. Du coup, je suis arrivé ici et vraiment, je suis très content.
Une fois avoir quitté complètement le milieu professionnel, y a-t-il une ou plusieurs leçons que vous avez tirées et qui vous marquent encore ?
Alors, après quitter le sport professionnel, ça que je tiens le plus, c'est la discipline. Le sport professionnel t'amène à être toujours discipliné. Discipliné à l'entraînement, discipliné au repos, discipliné... Une fois que je suis arrêté, j'essaie de garder cette discipline. J'essaie aussi de transmettre ça à mes enfants. J'ai deux garçons, 9 ans et 12 ans.
Et nous clôturerons cet entretien, Léo, en vous demandant simplement si vous regarderez les JO 2024 de Paris.
Bien sûr que je vais regarder, oui. Et après, j'aimerais bien aussi être présent à Paris, mais je pense que ça va être un peu compliqué. C'est sûr que je vais garder les JO, je vais suivre surtout l'équipe nationale argentine qui va disputer encore pour la 4e fois d'affilée les JO. Du coup, oui, bien sûr que j'aime bien regarder les sports.
Léo, un immense merci pour le temps que vous avez accordé et on vous souhaite une bonne continuation.
Merci à vous et j'espère que vous tous profitez de ces JO que vous avez ici cette année en France.
Merci. Vous êtes sur Oxygène FM et vous allez écouter un édito sur le féminisme et l'égalité homme-femme dans le sport.
Le droit des femmes dans le sport est un sujet crucial qui mérite une grande attention. Les inégalités continuent, que ce soit en termes de salaire, de visibilité médiatique ou d'accès aux installations et aux opportunités. Il est temps de mettre en lumière ces différences et de travailler ensemble pour créer un environnement plus inclusif où toutes les femmes peuvent s'épanouir pleinement dans le monde du sport. La première femme à avoir participé aux Jeux Olympiques modernes est Hélène Pourtalès. Elle a concouru aux Jeux Olympiques de Paris en 1900, faisant partie de l'équipe suisse qui a remporté la médaille d'or dans une épreuve de voile. La participation des femmes à ces Jeux en 1900 à Paris a été en grande partie le résultat de l'influence croissante des mouvements féministes et à l'évolution des mentalités sur l'égalité des sexes.
Le domaine du sport est souvent le théâtre de débats sur les vêtements portés par les sportives. Certaines pensent que des habits plus serrés ou qui montrent plus le corps sont bien car ils permettent de mieux bouger. Mais d'autres disent que c'est inapproprié ou que ça sexualise la femme. Comme exemple, la tenue de l'équipe d'athlétisme américaine pour les JO 2024. Les tenues ont été révélées lors d'un événement organisé à Paris, la ville haute. Une tenue basique pour les hommes, avec un débardeur et un short à mi-cuisse, et une tenue très échancrée pour les femmes. Des sports comme le tennis ou la gymnastique sont souvent critiqués pour cela. Pour certaines femmes, choisir des tenues légères est une manière de se sentir libre et de mieux performer, mais parfois ce choix est influencé par la société ou par l'argent, comme les sponsors par exemple. À mon avis, les femmes devraient pouvoir décider sans être jugées, tout le monde devrait se sentir bien dans ce qu'il porte quand il fait du sport.
Dans le domaine du sport, les inégalités entre hommes et femmes persistent, malgré les progrès réalisés. Les disparités salariales demeurent flagrantes, avec des rémunérations bien inférieures pour les athlètes féminines par rapport à leurs homologues masculins, même dans les sports les plus populaires. De plus, les opportunités de sponsorisation et de visibilité médiatique sont souvent bien plus limitées pour les femmes, ce qui entrave leur développement professionnel et leur reconnaissance. Les stéréotypes de genre continuent également à influencer les perceptions et les attentes, restreignant parfois les possibilités d'accès aux ressources et aux installations sportives pour les femmes. Bien que des progrès aient été réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à une véritable égalité dans le sport.
Pour finir, je vais vous parler de trois femmes qui ont marqué le sport. Nadia Comăneci, une gymnaste roumaine qui est devenue la première gymnaste de l'histoire à obtenir un score parfait de 10 aux Jeux Olympiques d'été de 1976 à Montréal. Catherine Switzer, bien qu'elle ne soit pas une médaillée d'or, Switzer a marqué l'histoire en devenant la première femme à courir le marathon de Boston officiellement en 1967. Et Serena Williams, bien qu'elle ne soit plus connue pour son succès dans le tennis en dehors des Jeux Olympiques, Serena Williams a également remporté 4 médailles d'or olympiques en double avec sa sœur Vénus.
Vous êtes sur Oxygène FM et tout de suite une brève sur l'assainissement de la Seine pour accueillir les Jeux Olympiques de 2024.
Comme nous le savons, cette année, les épreuves de natation en eau libre et la partie nage du triathlon des JO se dérouleront dans la Seine. Cependant, la Seine n'étant pas propre à la veille de cette décision, ce sont 1,4 milliard d'euros qui ont été débloqués afin d'assainir le fleuve de la capitale. Cet argent servira à faire évoluer les moyens de traitement des eaux usées par les stations d'épuration, mais aussi à créer de gigantesques bassins qui permettront de recueillir les eaux usées qui se déverseront dans la Seine en cas de forte pluie. Ce projet vise également à rendre la Seine baignable d'ici 2025.
Et pour finir, une chronique historique sur le racisme dans le sport.
Depuis leur début en Grèce antique jusqu'à aujourd'hui, les Jeux Olympiques ont dû faire face au racisme. Au début, les Jeux étaient censés unir les nations et promouvoir la paix, mais souvent, ils ont été lieu de problèmes liés à la race et à l'ethnie.
À l'époque antique, Seuls les hommes grecs libres pouvaient participer. Donc les esclaves et ceux qui n'étaient pas grecs étaient exclus. Cela illustre le fait que les Grecs pensaient qu'ils étaient meilleurs que les autres.
Au fil des siècles, les Jeux ont été arrêtés, puis repris à l'époque moderne par Pierre de Coubertin. Mais même alors, les problèmes de racisme existaient toujours. Nous pouvons passer aux Jeux de 1936 à Berlin, sous le régime nazi, qui étaient outils de propagande d'idées racistes. Cependant, un athlète afro-américain, Jesse Owens, a gagné 4 médailles d'or et a prouvé que la race ne déterminait pas la valeur d'un athlète.
Mais même après cela, le racisme n'a pas disparu des Jeux. Certains pays ont boycotté les Jeux pour protester contre les discriminations, comme le boycott des pays africains aux Jeux olympiques de 1968 à Mexico, à cause du traitement des athlètes noirs américains.
Même si des progrès ont été faits, notamment des politiques contre la discrimination et des encouragements pour la participation de tous les athlètes, le racisme est toujours présent lors des Jeux. Et il y a encore des actes de discrimination et de racisme lors de plusieurs Jeux, montrant que c'est un long défi de lutter contre ces injustices.
En effet, aux Jeux de Tokyo en 2021, des manifestations contre le racisme et rassemblant toute la communauté du sport ont eu lieu, montrant qu'il faut continuer à lutter pour l'inclusion et la diversité dans le sport.
Alors que les Jeux continuent, il est important que les organisations sportives et que les gouvernements travaillent ensemble pour éliminer le racisme, afin que tous les athlètes puissent concourir librement sans être discriminés.
À noter que pendant la préparation des Jeux Olympiques de Paris, la chanteuse Aya Nakamura a été victime de racisme en étant qualifiée de « pas assez française » pour représenter la France lors de la cérémonie d'ouverture.
Merci de nous avoir écoutés, c'était le lycée Pyrène sur les ondes d'Oxygène FM.